regarde là, ça c'est bien ça, ces trucs là, là. Plein de jambon, plein de trucs de carottes.
Même des burgers.
Pardon. Allez-y monsieur. Vas-y, on les met au-dessus les fraises, ça tu peux le mettre plutôt là-bas s'il te plaît.
Mais c'est trempé hein.
Ah ouais, ça
c'est
aussi
sous les fraises du coup ça a pris.
Vraiment, je vais mettre un drap dans cette caisse.
Attends, je te...
Regarde, on les tèche tous. Hein. Ouais.
Allez, là, je pense qu'on rentre. Hein.
Là, pour ce voyage-là, on va... Il n'y a pas... Putain, ça dégouline de...
Ouais, mais il y a plein de fraises,
de
là.
De flotte dégueulasse.
Ah, ouais.
Oh.
C'est du jus de fraises, ouais.
Ma pauvre voiture.
Est-ce que tu peux me dire où on est?
Dans le quartier de la Guillotière, près de l'épicerie solidaire. Et du coup, on récupère là de la bouffe, fruits, légumes en tout genre, viande et tout ça, pour les ramener après à l'ECG, du coup, l'espace communal Guillotière, pour la distribution de 17h30, du mercredi et du vendredi. Aujourd'hui, on est mercredi.
Il y a quoi globalement dans la récup?
Là, de la salade, des radis, pas mal de fraises, des poires, des pommes, du coup, beaucoup de viande, pas mal de jambon.
Encore une place là pour un gros truc.
Et là, on peut pas caler un truc aussi par-dessus?
Non, mais là, ça va le faire, je pense, non? Tetris. Allez, c'est bon, c'est parti. Suite.
L'arrivage.
Il y a besoin d'aide ou pas?
Ouais, un petit peu.
Ah, tu vois qu'il y a un autre, on peut manquer. Mais, on n'a pas hors quoi. Si nous savons, il n'y a pas. On a des heures quoi. N'arrive pas hors de la famille.
Non, tu parles hors de l'Inde.
Non, tout va, quand il dit.
Barry, toi, tu fais quoi?
Moi, je distribue les tickets là. Les tickets pour les gens. Ouais.
Il y a déjà beaucoup de monde, il y a combien de personnes à peu
près? Oui, il y a déjà 24 tickets qui sont déjà donnés là.
Celle-là, on la jette, je pense.
Ouais.
Moi, ça, je mange.
Ouais,
moi aussi. Moi, je dis, on met au pire, on jette à 19h, au pire, on jette.
Et la salade, au pire, on peut la mettre. Ah non, elle est belle. Mais franchement, toutes les salades sont trop belles pour une fois. Les gens les prennent pas trop d'habitude, mais là, je pense que ça va assez bien partir.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est né un peu ces distributions à l'espace communal?
Il y avait déjà en fait des distributions qui se faisaient dans le quartier il y a quelques mois dans un squat à côté, là, le local. Et puis elles ont été délocalisées, je crois que c'était en février à l'ECG, puisque l'espace était vachement plus grand. Et ensuite, il y a eu le confinement. Du coup, c'est là où on a commencé à être un gros centre de récupération, de dons alimentaires qui venaient de plein d'endroits différents, donc des appros qu'on avait déjà par ailleurs, puis il y a plein de gens qui ont mis la main à la pâte. Et en même temps, un nombre de gens croissant aussi qui venaient à ces distributions. Du coup, voilà, depuis vraiment le début du confinement, les mercredis et les vendredis, on a mis en place ces distributions sur un créneau horaire. Au début, c'était des distributions assez courtes qui duraient, je sais pas, une demi-heure parce qu'il y avait au début 15-20 personnes. Et puis très vite, au bout de quelques semaines et surtout à l'avant, la fin du confinement, je pense qu'on était minimum à 50 par distribution. 50 personnes, il y a des gens parfois qui venaient même deux fois dans la semaine, et les dernières semaines, il y a des fois on était 60-80. Donc potentiellement, peut-être qu'on peut se dire, il y a peut-être 120 foyers par semaine qui viennent récupérer des choses aux distributions.
Malik, c'est toi qui
les donnes? Les ouais.
Ok, bah, je te les remets. D'accord. Et on vous aidera à la fin.
D'accord,
okay. Pardon.
Du coup, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Du coup, je pense qu'il y en a qui sont habitués de venir à ce marché-là, à la distribution de la nourriture. Du coup, pour rappel, toujours, parce que pour nous c'est important que vous soyez conscients de cela, ici, du coup, c'est l'espace communal de la Guillotière, un lieu politique qu'on a ouvert en décembre pour s'organiser dans le quartier de la Guillotière, parce qu'on est plusieurs, qu'on habite ici, et on a envie que ça change, on a envie de s'organiser ici. Et on n'est pas une association, on ne fait pas de l'humanitaire, d'accord? Ce lieu-là, il est expulsable à partir de 10 juillet, c'est-à-dire que, en fait, à partir de 10 juillet, la police peut venir à n'importe quel moment pour nous expulser. si la trêve hivernale est, elle n'est pas prolongée, donc si on n'a pas un délai encore plus long. Du coup, bah, comme vous le savez, le mercredi et le vendredi, il y a les distributions de nourriture à 17h30. Et aussi, rappelez-vous que les jeudis, de 16h à 18h, il y a les permanences juridiques ici, donc pour tout ce qui est logement ou autre, démarches administratives. Comme d'habitude, du coup, là maintenant, le système, c'est qu'on va vous donner des numéros. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille et comme ça, chacun et chacune a son tour. Vous allez rentrer. On vous demande, s'il vous plaît, comme d'habitude, d'être bienveillant et aussi de penser aux autres. Donc de faire attention, prendre les farci que tout le monde puisse prendre les mêmes choses. On fait passer la dame
Après le monsieur, on fera passer la dame parce qu'elle ne se sent pas très bien.
C'est à moi à vous dire après vous.
Oui.
Parce
comment
que
tu vas?
Ben moi je vais très bien.
Ça va.
Mais toi t'as meilleure mine depuis que t'as déménagé.
Ouais, t'as vu ça.
Ouais. Non, t'as meilleure mine.
Je suis bien où je suis. Ouais. C'est vrai que je suis bien.
T'habites là-bas. Mais psychologiquement, t'as l'air mieux dans ta tête.
Ouais, c'est vrai.
C'est la première fois que vous venez à la distribution?
Non, ça, malheureusement, non. C'est la quatrième fois.
Ok, vous avez connu comment?
Par un ami, bien sûr. Ouais. Bah écoute, on gagne pas ses thunes, Aranani, enfin... Mais franchement, je vole personne, tout ce coup-là. Puis bon, l'occasion fait le larron. On est là, puis c'est, bah, ça va, ça le fait. Plus on rencontre des gens comme vous. Bah, c'est-à-dire que dès que t'as bouffé, tu t'inquiètes pas pendant 2-3 jours, tu sais que bon, y a pas grand chose, mais déjà il y a. C'est ouais. Moins t'es tranquille pour 2 jours et demi, 3 jours. Ou... Voilà.
Juste. Mettez-vous là et après petit coup sur les mains.
C'est la première fois que vous venez, vous, ici?
Non, ça fait déjà plusieurs fois que je viens. Du début, quand vous étiez de l'autre côté déjà. Et je trouve ça super.
D'accord, quand c'était au local, même avant le confinement?
Même avant, oui.
Et vous aviez eu l'information comment qu'on organisait ces distributions?
C'est mon fils, il avait un ami qui était là et qui m'a dit « Maman, va là-bas, ils font des distributions ». Et j'ai trouvé ça super. C'est vraiment merveilleux.
Et à vous, vous venez les mercredis et les vendredis?
Mercredi et le vendredi. J'ai payé mes loyers, on a des punaises dans le bâtiment, il faut faire désinfecter, c'est cher. Et ça fait déjà 3 fois. J'en suis à 700 euros.
Et donc pour vous venir ici, c'est aussi...
C'est salutaire.
17. Numéro 17.
Vous avez le
malif, vous avez le 15 et 16? Oui, je voulais le mettre à côté parce que
j'ai pas... Ici, là, je vais prendre deux produits. Il y a du fromage, il y a des steaks aussi, il y a un peu de jambon.
Le steak, c'est où, là?
Là, c'est ici tout ce qui est steak haché. Il faut en prendre deux, si vous voulez.
Ça c'est pareil, c'est deux entre les deux quoi.
Ah, c'est voilà. Là, non
si tous les gâteaux c'est un grand, un petit.
C'est là, je suis capable de ma fille.
C'est la première fois que vous venez ici?
Non, je viens tous les temps. Depuis le commerce est ouvert. C'est pas premier jour, deuxième jour ou troisième jour, c'est moi qui viens ici.
Vous avez su qu'il y avait ça, comment?
Il y en a moussé ici là. Il a dit bonjour maman, j'ai dit bonjour. Il a dit il y a quelque chose ici, il a dit besoin. Tu es rentré, il y en a carottes, il y en a pommes de terre. J'ai dit ah bon? Il a dit oui. J'ai dit merci mon fils, il est rentré. Moi j'ai très content.
Et vous habitez dans le quartier?
À l'autre côté. C'est en face des bâtiments là, c'est moi.
J'ai fini les gâteaux. Hein.
Tu manges quoi?
Je vais prendre. Ça, c'est pas, hein, je vais le tester. Hein, c'est la...
Un chou à la crème au chocolat.
Un chou à la crème au chocolat?
Ouais, je sais pas. Ça a la tête d'un chou à la crème et ça dirait un éclair au chocolat.
C'est la première fois, j'aimerais bien goûter. Hein.
Je pense que c'est pas mal, ouais. C'est bien la récup.
C'est trop bon. Hein. Ouais, ça va, ouais. Il y a des bons gâteaux. Hein.
Oui, je fais. Bon, ah, mais il y a beaucoup de sucre. Regarde, tu es déjà gros là.
Ouais, sinon vous avez envie de
ouais, mais toi, là. T'es un sportif. Bon appétit.
Merci.
Merci. Rappelle-moi ton prénom déjà.
Malik.
Bah voilà, c'est terminé. Du coup, on va tout trier. On va voir ce qui passera pas les 2 jours. Parce que les gens aussi veulent bien récupérer des distribs. Et voilà, on va balancer pas mal de choses, malheureusement. Et ça pose une nouvelle question, qui est celle des poubelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout assez de place dans nos poubelles, vu qu'elles ne sont en plus pas changées toutes les semaines. Donc on va essayer de trouver une solution pour jeter tout ça.
Et du coup, vous faites quoi, là?
Alors, on fait couler du jus de... Bah, comme tout à l'heure dans la bagnole, c'est-à-dire qu'on fait couler du jus de fraise sur les affaires.
Voilà, c'était la distrib alimentaire et on remercie le Canu Info du lundi qui nous fournit la plupart des archives que vous entendez. C'est la semaine du feu. Radio Canu est en direct de l'ECG et on accueille nos prochains invités, à savoir l'Amicale du Combat Libre.
L'ACL, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?
Alors, nous, on est l'Amicale du Combat Libre. On est un club de boxe populaire. On existe depuis plus de 10 ans, à peu près. On a une pratique de la boxe qu'on essaie de penser tous ensemble. On n'est pas du tout compétitif, en fait, dans notre approche. On essaie d'être vraiment dans la bienveillance. On n'est pas là pour remporter des tournois. Voilà. Avant, on était à l'atelier des canulars, mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans à peu près, on est à l'ECG et voilà, on est là tous les jeudis à 19h pour faire de la boxe tous ensemble.
Et comment est-ce que vous organisez vos séances de boxe ?
On s'organise en autogestion, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir en amont à l'organisation de la séance sur le coup. Donc souvent, on va se retrouver par exemple les lundis et nous, on se retrouve tous ensemble les jeudis. Donc on se retrouve le lundi pour organiser la séance. L'organisation, elle est ouverte à tout le monde. On fait en sorte que tout le monde se sente légitime pour donner des conseils, pour préparer la séance, pour même si t'as pas fait de la boxe depuis longtemps ou quoi, tu sais pas bien faire, bah on va regarder des vidéos sur YouTube et on essaye de créer une séance comme ça, quoi. Donc il y a pas besoin d'être hyper chaud et c'est ça qui est assez cool, c'est que tout le monde peut participer comme ça.
On essaye aussi de réfléchir à des choses plus expérimentales aussi que la boxe, on va dire traditionnelle et compétitive. Par exemple, on fait parfois des groupes de quatre où chacune va essayer de donner des conseils aux autres. Du coup, même si tu es débutant ou débutante, en fait, tu peux donner des conseils à quelqu'un qui est plus expérimenté, qui fait de la boxe depuis plusieurs années. On essaye de réfléchir aussi, par exemple, on fait des trucs en musique, essayer de boxer sur la musique. Enfin voilà, on essaye de réfléchir à comment... à cette autogestion aussi un peu différemment d'un mode traditionnel de boxe.
Et vous avez l'impression que ça marche, cet objectif d'autogestion, d'horizontalité ?
Bah, on voit que on essaye toujours de se questionner sur pas mal de choses et comme il n'y a pas des personnes qui sont fixes autant dans les gens qui viennent que dans les personnes qui animent, ça bouge beaucoup, donc c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué. À chaque fois, on doit reposer les bases, réfléchir tous ensemble. Mais oui, globalement...
Okay, super. J'ai cru voir que vous aviez fait des activités là pour la semaine du feu. Vous pouvez nous dire quelques mots dessus ?
Là, sur la semaine du feu, on a prévu dimanche une initiation à la boxe pour des débutants, débutantes. Ça, c'était sur l'après-midi. Et après, on a fait un gala le soir. Donc, il y avait de la boxe anglaise, française. Il y avait aussi du jiu-jitsu et des trucs plus fun, on va dire. Donc, il y avait des combats de pouces, des attrapes foulards. Voilà. Et il y avait quand même pas mal de monde et une bonne ambiance.
Et est-ce que pour conclure, vous pourriez nous dire un peu en deux mots ce que vous, ça vous apporte personnellement cet espace d'organisation de sport ?
Pour moi, ça a été vraiment un moyen de pratiquer les sports de combat dans un cadre qui n'était pas du tout un cadre très masculin, très viril, etc. C'est pas du tout quelque chose qui me parle du tout, ce genre d'ambiance. Donc du coup, ouais, tout faire dans la bienveillance, avoir cette organisation aussi qui est pas du tout hiérarchique, avec un prof qui donne tous les exercices et tout ça. Voilà, moi, ça, c'est ce côté un peu militaire, ça me saoule un peu. Donc voilà, cette façon de faire, on est un peu tous au même niveau et que même si, voilà, il y a tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde, il y a des gens qui ont beaucoup plus de niveau en boxe, il y a des gens qui font de la boxe depuis 10 ans, il y a des gens qui font de la boxe depuis 3 mois. Ben, le fait que tout le monde puisse participer, je trouvais ça vraiment super. Et moi, vraiment, ça m'a permis de faire du sport et de me motiver à le faire, quoi, et de rester motivé et tout. Voilà. Puis trouver des gens aussi avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai... On a un peu les mêmes façons de penser, certaines choses. Voilà, c'est aussi, ça permet de créer un peu du lien social, quoi.
Il y a aussi le fait de questionner aussi le rapport à on va dire, au conflit. Ça reste quand même un sport de combat, donc même si on a une pratique qui est assez douce, il y a quand même des coups qui sont portés. Et donc cette question du rapport à la violence, entre guillemets, est assez intéressant, et on essaie de questionner ça.
Oui, voilà, on essaye de pas tomber dans un rapport qui est trop viriliste à la boxe, parce que oui, c'est un sport qui est de base assez masculin et viriliste, et on essaye plutôt de se questionner là-dessus, de réfléchir à notre organisation pour que ce soit plus horizontal, pour que plus ou moins tout le monde puisse essayer de se mettre dedans. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi avec la CL, c'est qu'on essaie d'avoir une dimension plus politique aussi que juste notre pratique quotidienne du sport. Donc, on n'a pas fait beaucoup de choses, mais déjà, s'inscrire dans l'expulsion de ce lieu en organisant le gala de boxe, moi, je trouvais ça assez important. Et ensuite, on voulait aussi, par exemple, continuer à donner des cours de boxe pour les enfants, pour les garder pendant des événements militants, pour que les parents aient les mains libres, ce genre de choses. Je trouvais ça assez important de donner plus de dimensions politiques que juste notre pratique individuelle du sport. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on aimerait bien continuer par la suite, et donc qui était assez important pour nous.
Est-ce que, avant qu'on change de plateau, vous auriez envie de dire un dernier mot ?
Venez nous voir.
Jeudi à 19h.
Ok, super. Alors, avant qu'on accueille nos prochains invités, acteurs importants de la vie à l'ECG, une petite interlude.
Rendez-moi, c'est mon vaisseau. Non, j'avais un premier.
Mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était.
C'est pas le nom de mon ancien locataire, ni le mien. Ni le mien. Voilà, je reconnais pas. Donc ici, c'est chez moi, mais c'est plus chez moi.
En ce moment, c'est mon petit dernier qui me crée bien du souci. Il est colérique, mais il est surtout extrêmement possessif. Chez nous, les jouets sont partagés, sont donc sans aucun titre de propriété, s'entend, j'imagine.
Ce pavillon en pierre de taille, c'est celui de Fernando, le fruit de toute une vie de travail. Il y a une semaine, alors qu'une agence s'occupe de lui chercher des locataires, leurs voisins et amis aperçoivent de la lumière dans la maison.
Donc le petit dernier, Hugo, peut devenir violent quand un autre enfant prend un jouet ou objet qu'il estime être le sien, soit parce qu'il l'estime qu'il avait avant et donc c'est son jouet.
La maison est en effet occupée par une femme et son enfant. Découragé par la lenteur des procédures légales, Fernando charge un ami d'intimider la squatteuse. Quelques jours plus tard, des hommes cagoulés font irruption dans la maison et font fuir son occupante. Alors que Fernando et son fils viennent récupérer les clés, la jeune femme réapparaît, un hématome au visage et un bras dans une écharpe.
Hier à l'école, il a mordu un enfant qui avait pris sa place sur un jouet à bascule. Le petit garçon concerné est très déluré et ce matin, il me disait qu'il ne prendrait plus la place de Hugo, sinon il risquait de se prendre un coup de pied aux fesses.
On a démarré une procédure pour expulsion avec l'aide de la force publique, donc les gendarmes. Et depuis, il restait un mois et demi pour l'expulser et la sous-préfecture a refusé là quelques jours avant la trêve.
Mais sur un trajet en voiture, son frère arrivait à le faire hurler juste en posant sa main sur la petite voiture posée entre eux. Parfois, il repose un jouet mais ne supporte pas que quelqu'un s'en empare juste après lui, même s'il est déjà en train de jouer avec un autre.
Je tiens à vous dire que je suis la propriétaire, hein. Je suis la propriétaire des lieux et vous êtes sur ma propriété là. Ok ? Alors vous taisez !
Maintenant, comment réussir à le désensibiliser et lui permettre de vivre bien le fait que le jouet qu'il utilise va ensuite être utilisé par quelqu'un d'autre, que quand il libère un jouet ou une place, c'est normal qu'un autre enfant s'en empare.
Il est à moi ! Attention, ne touche pas ! Et dis donc, lâche-la ! Ne touche pas ! Et dis donc, lâche-la ! Ne touche pas ! Ne touche pas !
Nous sommes toujours sur Radio Canu, en direct de l'espace communal de la Guillotière. Nous invitons maintenant notre prochain collectif actif dans le lieu. Il s'agit des permanences juridiques.
Oui, et nous accueillons donc deux personnes. Est-ce que ça vous dit de vous présenter rapidement ?
Oui, moi c'est Geneviève.
Et bonjour à tous, c'est Morgane.
Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, la permanence juridique, en quoi ça consiste ?
Tout à fait, je vais commencer du coup. Donc la permanence juridique, donc c'est une permanence, comme son nom l'indique, qui a lieu tous les mercredis de 17h30 à 19h30, donc à l'ECG bien évidemment. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les demandeurs et les demandeuses d'asile dans toutes leurs procédures, donc essentiellement auprès de l'OFPRA et de la CNDA. Et jusqu'alors, on a accompagné 200 personnes environ, et qui viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest. Oui, de l'Ouest, que je ne dise pas de bêtises. Et juste pour finir, pour chacune des permes, on est entre 2 et 3 personnes. Et on reçoit entre 1 et 2 personnes, donc toujours sur rendez-vous. Et on a essentiellement du monde qui vient grâce aux bouche à oreille. Voilà ce que je peux vous dire.
Est-ce qu'on peut aussi revenir un peu sur l'historique ? Parce qu'il me semble que la permanence juridique, c'est une histoire qui remonte à avant l'ECG et aussi à la raison de sa création. Pourquoi ? Quelle raison vous en poussez à le créer ?
Effectivement, la perme juridique, elle a été initiée à l'Amphizen avant qu'il ne soit expulsé en 2019. Et puis après, on nous a proposé de venir ici et on a trouvé que c'était effectivement une bonne solution. D'abord à cause de sa situation. À la Guy, c'est facilement accessible pour les gens. Le lieu est très ouvert. En tout cas, et les gens s'y trouvaient bien aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi de rester à l'ECG.
Mais il me semble aussi que, en fait, ce genre d'initiative, ça répond à un gros besoin et à un gros manque aussi, parce que il y a assez peu d'endroits, de lieux où on peut se tourner pour poser des questions, et notamment quand on ne parle pas très bien français, qu'on a des questions administratives et qu'on a des gros problèmes administratifs. Et justement, c'est quel type de problème qu'on venait vous présenter, quel type de questions on avait à vous poser, ou on a toujours d'ailleurs.
Alors. Je pense qu'il faudrait dire effectivement pourquoi la perme. Finalement, la perme, elle ne devrait pas exister, puisque c'est l'État qui doit accompagner les demandeurs d'asile. Mais l'État choisit de ne pas consacrer suffisamment de moyens à l'accueil des demandeurs. Donc la perme, elle essaye de pallier ces insuffisances en apportant un accompagnement un peu plus, on va dire, un peu plus humain. Voilà, et un peu plus conséquent aussi. Parce que les structures, elles existent, mais elles consacrent très, très peu de temps à l'accompagnement des personnes. Et de fait, pour avoir une demande d'asile correcte, il faut passer énormément de temps à la rédaction d'un dossier, à la préparation orale devant l'OFPRA ou la CNDA.
Oui, parce que c'est peut-être quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas concerné, mais faire une demande d'asile, c'est la réussite de sa demande, ça tient aussi beaucoup à la façon dont on arrive à la présenter, à réussir à comprendre ce qu'on attend de nous, ce qu'on veut qu'on dise, en fait, et être accompagné par des gens un peu informés, forcément, ça aide. En ce qui vous concerne, vous, est-ce que vous êtes des spécialistes du droit des étrangers ?
Je vais répondre à cette question. Alors non, on n'est pas des spécialistes du droit des étrangers. Par contre, on se forme, on s'auto-forme, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais pas que sur l'aspect juridique, également sur, je dirais, tous les enjeux politiques, géopolitiques de ces régions du monde. On est obligé, en fait, sinon c'est vrai qu'on ne comprend pas Enfin, c'est pas qu'on ne comprend pas, mais ça peut être compliqué de bien comprendre le chemin de vie, le parcours, les raisons pour lesquelles ces gens sont ici aujourd'hui. Et quand c'est nécessaire, on renvoie par contre vers les structures ou les personnes qui sont spécialistes, qui sont ressources. Et on peut également diriger les demandeurs d'asile vers des avocats. Mais par contre, depuis 2019, donc moi je ne suis pas là depuis 2019, mais pour... pour les plus anciens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qui ont été acquises, même si les lois elles changent quand même très vite et que il faut se rencarder. Mais alors ça c'est pour notre petite popote interne, mais on forme des binômes avec les anciens et les nouveaux pour vraiment s'assurer de la justesse de l'accompagnement que l'on propose à ces personnes-là.
Et est-ce que vous êtes nombreuses à tenir cette permanence ?
Alors selon les périodes, on est entre 2 et 5 personnes. Donc en ce moment, on est 4. Donc 2 anciens et 2 nouveaux. Donc ça tombe très bien. Et je ne sais pas, Geneviève, si tu veux compléter un peu. Donc en 2024, 4 personnes. Mais on en parlait juste avant avec Geneviève. C'est vrai que ça peut être éprouvant aussi pour nous d'écouter ces récits qui sont quand même très très lourds, très, très difficiles en fonction des personnes, mais bon, pour la majorité d'entre elles. Et il faut que nous, on trouve le juste milieu entre avoir l'empathie qu'il faut et qu'on soit quand même efficace dans l'accompagnement qu'on propose à ces personnes-là.
D'où l'importance, je me permets de rajouter, d'où l'importance d'une équipe solide. Mmh. On essaye de débriefer entre nous, on essaye un petit peu de se resituer parce que parfois pour nous c'est également très, très difficile.
J'imagine bien, donc on l'a entendu, que c'est un énorme travail, alors déjà de recherche, d'information, que ce soit pour avoir, ne serait-ce que pour pouvoir réorienter les gens et puis être de bons conseils, d'accompagnement. Ça peut être dur un peu mentalement, comme tu viens de le mentionner. Et alors, vous avez dit que vous êtes entre 2 et 4, et je crois que tu l'as dit aussi, peut-être on peut le redire, vous avez suivi combien de personnes, à 2 ou 4 personnes, depuis que vous la tenez ?
200 personnes ?
Oui.
Ouais. 200 personnes.
Vous avez accompagné 200 personnes, oui. Donc essentiellement dans des dépôts de demande d'asile.
Oui, essentiellement, même si parfois on a des demandes un peu différentes qui concernent l'aide dans des documents concernant la santé, des choses comme ça. On passe aussi beaucoup de temps en fait à expliquer aux personnes, parce que non seulement pour les personnes analphabètes, pour qui de toute évidence c'est encore plus difficile, mais les arcanes administratives en France, c'est surtout dans la demande d'asile, surtout pour un étranger, c'est extrêmement difficile.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour finir ? Peut-être quelque chose qu'on a oublié ?
Alors attends, je relis mes petites notes. Écoute,
non, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que la chose la plus importante, c'est de se rendre compte, en fait, de la difficulté du parcours de ces personnes. Non seulement elles ont elles-mêmes vécu quelque chose de très violent, de très traumatisant pour arriver ici, et une fois en France, se repérer, c'est quasi impossible, quoi. Hein, et les structures ne le feront pas parce que n'ont pas les moyens de le faire.
Alors, on va vous remercier déjà pour le plateau et puis aussi pour tout le travail que vous avez fait. Ça a participé énormément à faire vivre le CG. Ça a bénéficié à beaucoup de personnes. Merci encore. Et puis, nous, on va écouter un deuxième interlude.
Pour savoir si l'espace est habitable, ils vont tenter d'y pénétrer.
On est capable de repérer des bâtiments qui ne sont pas utilisés depuis des années. Voilà. Ça se repère facilement parce que ça a soit déjà été squatté, soit c'est muré, tout ça.
Un troisième squatter les attend sur place. La mécanique du groupe est rodée. Pendant que César respire avec la poussière, Martin fait le quai
d'art. César, il y a quelqu'un.
La lutte nous donne ce que le pouvoir nous prend.
Yeah.
Une expulsion égale une autre occupation.
Pour
le débriefing, César n'a pas pu voir grand-chose, mais a néanmoins une mauvaise nouvelle.
Il y avait une putain d'alarme de merde, et voilà quoi. Il va falloir neutraliser tout le bordel. C'est
énorme séance, je sais pas, mais je vais faire envoyer à la centrale. Et puis on a un autre endroit où on peut aller provisoirement, et puis je sais que je ne serai pas à la rue.
L'auto-organisation, ce n'est pas céder aux injonctions de la peur et du silence. C'est créer et défendre des espaces et des moments qui échappent au contrôle. Squatte ton monde.
Squatte ton monde.
Squatte ton monde.
Nous sommes bien toujours en direct sur Radio Canu, en direct de l'espace communal de la Guillotière. Nous accueillons maintenant les cours de français de l'espace communal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces cours de français ?
Oui, donc déjà, bonjour. Donc nous, les cours de français, donc on est ouvert à toute personne qui souhaite apprendre le français. Et donc, pour ça, on part vraiment des besoins des personnes qui viennent. Ce qui fait que l'organisation des cours dépend vraiment des personnes présentes. Donc, depuis le départ, il y a eu plein de fonctionnements et de propositions différentes, quoi. On peut être aussi bien sur de l'oral que sur de l'écrit, que sur d'autres choses. Du coup, les cours de français, ils existent ici à l'ECG depuis 2019. On estime à peu près une petite centaine de personnes qui ont été présentes sur ces cours depuis le début. Et donc aussi bien des personnes au départ de l'ECG que des personnes du quartier, et aussi un peu par le bouche à oreille. On se veut vraiment ouvert à toute personne qui en ressent le besoin, et donc pour ça on a aussi bien des enfants que des adultes, en fait.
Est-ce que ça pose une difficulté particulière de devoir à la fois apprendre le français à des enfants et à des adultes ?
L'avantage qu'on a, notamment en ce moment, c'est qu'on est assez nombreux et nombreuses à assurer les cours, ce qui fait qu'en fait on arrive à avoir un suivi qui est personnalisé. Donc en fait il y a une personne bénévole pour une personne apprenante, ce qui fait qu'on peut partir du besoin de la personne, et ça permet de vraiment y répondre quel que soit le besoin, que ce soit de l'apprentissage du français, ce qui concerne plus les adultes qui viennent, que du soutien scolaire, parce qu'on fait aussi ça. Et ça, ça va plus être les enfants et adolescents, adolescentes. Donc c'est cet avantage qu'on a, c'est d'aujourd'hui tourner à entre 5 et 8 personnes bénévoles qui interviennent. Et du coup, il y a à peu près autant d'apprenantes et apprenants, donc on arrive à s'y retrouver comme ça.
Et est-ce que vous-même, vous êtes prof dans votre vie civile, comme on dit ?
Il y a des profs. Là, en l'occurrence, on est deux enseignants-enseignantes, mais pas que non plus, pas que des profs.
Par exemple, du coup, je suis pas du tout professeur, j'ai juste fait ça un peu en associatif avant sur Saint-Etienne aussi. Et pour venir dans les ateliers, il n'y a absolument pas besoin de compétences particulières, il faut juste avoir de la bonne volonté, tout simplement avoir envie de bien faire. Et en plus de ça, il y a des personnes qui sont là depuis plus longtemps et qui pourront accompagner les nouveaux et nouvelles arrivantes.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un succès ? Enfin, quel bilan vous tirez à la fois de la manière dont vous vous êtes organisé et dans ce que vous avez réussi à transmettre ?
Il y a eu des périodes plus ou moins où il y avait plus ou moins de personnes qui venaient. Là, en ce moment, je pense qu'on peut dire qu'on arrive bien, au vu de notre fonctionnement, au vu du nombre qu'on est, à fonctionner. Après, pour nous, c'est extrêmement enrichissant aussi. On est quelques-uns à être dans l'éducation nationale, et ce fonctionnement-là, il permet des choses qu'on ne retrouve pas du tout dans nos classes. Avoir une relation beaucoup plus proche avec les personnes qui viennent, quelque chose qui est beaucoup plus horizontal. Donc sur ce plan-là, sur cette manière différente de voir et de faire de la pédagogie, c'est vraiment une réussite.
Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à vous engager à donner des cours de français toutes les semaines à l'ECG ?
Je rejoins ce qui était dit juste avant, c'est que c'est quand même un moment qui est super agréable pour tout le monde. Enfin, là, on est quand même un groupe, on est globalement les mêmes personnes toutes les semaines. Et du coup, c'est ça, c'est qu'on est dans un... Enfin, je ne sais pas trop quel mot mettre dessus, mais il y a un cadre où on s'y sent bien. On est quand même tous et toutes contentes de se retrouver, tous les participants, participantes. On apprend à se connaître, on se voit toutes les semaines. On crée une petite communauté, en fait, qui est, bah, qu'on apprécie, quoi.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin ?
Quand même un petit mot sur comment concrètement on peut se présenter une séance. Comme on l'a dit, vraiment, on se base sur le besoin des personnes qui viennent. Si, par exemple, c'est du soutien scolaire, ça peut même être autre chose que du français. On fait des mathématiques, ce genre de choses. On a différents supports. Donc, soit si, par exemple, un ou une élève arrive avec ses devoirs, ben, on se base là-dessus. On a aussi des supports qui sont dans la salle et qui appartiennent au collectif. Ça peut être de l'écriture, de la lecture, mais tout simplement de la discussion. Ça dépend de ce que la personne veut. Il y a aussi des choses qui peuvent être un peu différentes, c'est un peu plus artistique. Il y avait eu une banderole qui avait été dessinée. Et là, par exemple, il n'y a pas longtemps, pour les événements de la Semaine du Feu, la femme, la fanfare militante de Lyon, nous avait demandé un projet d'écriture de paroles avec les personnes. Donc du coup, on a on a recueilli un peu des récits, on en a fait des paroles qu'on leur a fournies. Voilà. Dans les choses importantes aussi, c'est que peu importe ce qui va se passer pour le CG et l'annexe d'ici peu, on a le souhait de continuer notre activité, idéalement dans le quartier ou ailleurs, mais voilà, l'idée c'est de continuer.
Mais alors du coup, est-ce que vous avez un contact ou est-ce qu'il y a un moyen de se tenir au courant de vos activités ?
Déjà, je ne sais plus si on a reprécisé la tranche horaire, mais du coup, les cours c'est de 18h à 19h30 le mercredi, ici à l'annexe. Donc ça peut être tout simplement en venant nous voir. Et sinon, je pense que via les pages réseaux sociaux de l'ECG, c'est possible aussi. Voilà.
Ok, super, merci beaucoup. On va continuer notre émission spéciale sur l'ECG en direct de l'ECG. Vous êtes sur Radio Canu. On écoute « Mets-toi à ta place » de SPL 145. Petit fun fact, le clip a été tourné à l'ECG.
Yeah, yeah, SPL, bienvenue en France, 145, invité dans le game, mais... En France, immigré sans papier, toujours pas de considération. Il a fallu que je bouge pour pouvoir porter mes couilles, comme toute une génération. Sur mon parcours, la galère m'a tiré dessous des photos dans le désert avec des corps qui suent. Une pensée à mes soldats aventuriers. Ne nous parle plus de la misère, on l'a trop connu. À la barre, quand tu te défends par tes propres moyens, tu peux compter que sur quelques soutiens. Parce qu'à l'arrivée, les guerriers deviennent migrants. Il n'est pas accueilli très chargement. Chercher garder des territoires, les gens pensent mieux savoir sur toi les raisons de ton départ. C'est pourtant le hasard qui fait qu'on ne suit ce continent. Alors pose-toi des questions avant de nous balancer tes discours de dénigrant. Tout des dénigrants, dénigrants. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai tant fait pour pouvoir m'accrocher. Ingrid est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Engue est venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Comme les autres, j'ai fini ma route à dormir au bord des tramways avant de rejoindre un endroit qu'on appelait Amphicé. C'est qu'ils étaient sans souvenir. Donc, ces moments d'histoire à cohésion de l'infisette à l'ECG. Solidarité en marche pour vivre dans un monde un peu moins lâche. Auprès de mes frères en squad, je suis l'office de l'Afrique de l'Ouest, celui qui est l'Afrique de l'Est. Yo, alléluia, alléluia. Dieu merci, je viens de la famille Loua. Maman m'a dit, deviens pas un putain de riche, mais juste un petit débrouillard. Un homme qui a appris à bouger les lignes, à traverser les frontières, contournant ce que le destin profile. Hey, faut qu'on risque, ils m'ont dit d'en faire la plonge. Je suis pas né à l'horizon, mais je vis bien dans les louanges. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, je t'ai fait pour pouvoir m'accrocher. Engue ne venu par la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est en héros. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place.
J'ai cherché, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Engue ne venait pas la nage, j'ai la rage. On n'a pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est un héros. Sarah Dai, tout est un héros. Engue ne venait pas la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est un héros. Mets-toi à ma place, mets-toi à ma place. Je cherchais, j'ai taffé pour pouvoir m'accrocher. Engue ne venait pas la nage, j'ai la rage. On n'est pas venu chercher le zéro, plutôt les zéros. Tout est un héros.
SPL 145. Sagadai, big up à tous les guerriers de Lyon.